Troisième partie. L'abominable. Chapitre 1. Note à Monsieur Dan Simmons. Jusqu'ici, j'ai raconté mon histoire au présent parce que j'ai travaillé à partir des entrées quotidiennes de mon journal et des notes que j'avais prises à l'époque, durant l'été et l'automne 1924, puis au printemps 1925. Le fait d'écrire au présent m'a aidé à raviver mes souvenirs, même si ce n'était pas très professionnel de ma part, d'un point de vue littéraire. Cette dernière partie de mon récit n'a été racontée qu'à une seule personne et n'a jamais été écrite. Je n'ai même pas pris de notes sur le moment. Je raconte les événements tels que je me les remémore aujourd'hui, au passé de narration. Mais comprenez que chaque mot que je couche sur le papier est aussi vrai et précis qu'il est possible, et que vous êtes seulement la deuxième personne depuis 1925 à entendre cette partie de l'histoire. Jake Perry. 5 minutes après que Passang eut confirmé avoir entendu le cri, le Sherpa, le diacre et moi étions dehors dans les tourbillons de neige. Il avait été décidé que 2 personnes devaient rester à l'intérieur pour tenir les piquets de la tente. Reggie s'était proposé. J.C. et moi avions tiré à pile ou face et il avait perdu.
« Vous l'entendez toujours ?»
hurla le diacre à Passang.
« Non, mais je vois quelque chose !»
Le Sherpa montra un point à environ 100 mètres en aval, près du site originel de notre camp 5, où l'une des tentes était effondrée et l'autre déchirée après une chute de pierre. En raison de la neige qui soufflait dans le cône de lumière de ma lampe frontale, il me fallut 1 minute pour le voir. Un rougeoiement infernal derrière des blocs rocheux à environ 30 mètres en dessous de nous. Nous nous encordâmes tous les trois, nous n'avions pas eu le temps de fixer nos crampons, et je pris la tête de la descente dans la pente raide. La neige ne tenait pas à cause du vent, mais il y avait une couche de glace suffisante pour rendre chaque rocher plus glissant qu'à l'ordinaire. C'était bizarre de marcher de nouveau en bottes ferrées. La sensation de sécurité que m'avaient donné les crampons ces derniers jours me manquait déjà. 1 quart d'heure plus tard, nous arrivâmes au camp 5, juste à temps pour voir s'éteindre une fusée de détresse. Il ne s'agissait manifestement pas d'une verrie à l'éclat éphémère, mais plutôt d'un de ces feux de Bengale de cheminots dont nous avions apporté des modèles rouges et blancs. À 3 mètres de la lumière, près de la tente mide écroulée, un homme, vêtu d'une parka en duvet de notre expédition, gisait sur le dos, immobile. Nous nous penchâmes sur lui, et nos lampes frontales éclairèrent son visage et ses grands yeux ouverts.
« C'est l'Obsang Sherpa !» dit le diacre. « Il est mort !»
Lorsque nous nous étions retrouvés au camp 6, lundi matin, le diacre avait mentionné avoir organisé la veille un convoi de quelques porteurs jusqu'au camp 5 mené par l'Obsang. À peine 18 heures plus tard, cet excellent grimpeur, qui avait gagné sa position de sirdar grâce à son dur labeur et ses longues journées de portage, paraissait bel et bien sans vie. Il avait la bouche ouverte, les pupilles fixes et dilatées.
« Plus personne ne meurt ici aujourd'hui !»
déclara Passang en posant son lourd sac à dos. Il était le seul de nous trois à en avoir pris un. Dans les lumières dansantes de nos lampes et la neige tourbillonnante, je vis que sa trousse médicale se trouvait à l'intérieur.
« Monsieur Perry, dit-il, pourriez-vous ouvrir la veste de l'Obsang Sherpa et écarter ses vêtements afin de dénuder sa poitrine ?»
Je posai un genou sur la pente raide, retirai mes moufles et j'obéis, sans espoir qu'une quelconque technique de réanimation serve à quoi que ce soit sur un homme mort, dont le corps et le visage étaient déjà couverts d'une fine couche de cristaux de glace. Passang sortit une énorme seringue. La dernière fois que j'en avais vu une de cette taille, c'était dans un sketch parodique fait par le club de théâtre de Harvard. L'aiguille mesurait au moins 15 cm de long. On aurait dit un instrument qu'un vétérinaire aurait utilisé sur des bestiaux.
« Tenez-lui les bras !»
ordonna Passang, avant de passer les doigts sur la peau brune du torse de l'Obsang. Les yeux du sirdar étaient toujours fixés sur l'éternité. Je me souviens d'avoir pensé « Pourquoi lui tenir les bras ? Le cadavre a-t-il l'intention d'aller quelque part ?» Passang était occupé à compter les côtes et à palper le sternum du pauvre Sherpa sous sa peau. Puis, de ses 2 mains nues,
Il brandit l'énorme seringue et la planta droit dans le cœur de Lobsang Sherpa avec un craquement audible, malgré les derniers chuintements du feu de Bengale et le mugissement du vent. Puis Pasang poussa le piston de l'instrument. Le corps de Lobsang Sherpa s'arqua d'un coup. Il aurait basculé dans le précipice si le diacre et moi ne l'avions pas maintenu au sol. Et le petit homme se mit à aspirer de grandes goulées d'air.
« Sacrebleu !» murmura le diacre.
Je pensais la même chose. C'était le geste médical le plus dingue que j'avais jamais vu. Et ça reste vrai aujourd'hui encore, plus de 60 ans après.
« Une piqûre d'adrénaline directement dans le cœur, » dit le docteur Pasang, le souffle court. « Si quelque chose pouvait le ranimer, c'était ça. »
Pasang posa le pied près de Lobsang Sherpa et sortit la seringue de la poitrine de l'homme, comme on apprenait aux soldats à retirer leur baïonnette de la carcasse d'un ennemi, d'après ce que j'avais entendu dire. Lobsang eut un hoquet, ses paupières battirent follement, et il tenta de se redresser. Après quelques secondes, Pasang et moi l'aidâmes à se remettre sur pied. J'avais l'impression d'aider Lazare à se lever. Curieusement, Lobsang était capable de tenir debout. Dans le cas contraire, nous aurions dû l'abandonner. À cette altitude, même trois hommes n'auraient pu porter un poids mort sur 30 mètres de pente raide. Le diacre et moi soutînmes le miraculé qui haletait et clignait des yeux, tandis que le docteur Pasang suivait avec son sac à dos. En titubant tous les quatre, nous retournâmes à la grande pente de Reggie. Si nous avions déjà peu d'espoir de dormir à 5 sous le petit dôme, à 6 ce serait impossible. La résurrection de cette sixième personne m'inspirait donc des sentiments mitigés. Quelques heures plus tôt, nous avions utilisé un Una pour réchauffer de l'eau et de la soupe, et Reggie donna à Lobsang du chocolat chaud. Il le vida d'un trait. Quand il parut en état de répondre à des questions, Reggie lui posa la première en anglais, puis en népalais.
« Pourquoi es-tu venu ici dans l'obscurité, Lobsang Sherpa ?»
L'homme écarquilla les yeux, et je les revis tels qu'ils étaient quelques minutes plus tôt, ouverts sur le néant avec une fixité terrifiante. Il répondit très vite en népalais, regarda autour de lui et répéta dans un anglais précipité
« Vous devez descendre, Mem Sahib, Sahib, docteur Pasang, vous devez descendre tout de suite. Des yétis ont tué tout le monde au camp de base. »